Confiné chronique, jour 21. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Aujourd'hui, on va parler du lien entre la crise écologique et la crise sanitaire pour comprendre comment nos pratiques agricoles et la mondialisation sont un terreau propice à l'émergence de virus tels que le Covid-19.
Cette pandémie, elle a une capacité de désorganisation de la société. Et donc, l'immense risque, c'est l'émergence d'une violence. Et il faut en avoir conscience et se dire qu'on va vers des temps qui sont difficiles, donc humainement très riches, et il faut les exploiter dans ce sens. La seule réponse à tout ça, c'est la solidarité. C'est pas un cri, c'est un hurlement.
On va s'entretenir une dizaine de minutes avec Frédéric Jacquemart, président de la FRAPNA Ardèche, la Fédération Ardéchoise de Protection de la Nature. Il est docteur en sciences et en médecine. Et pour commencer, je lui ai d'abord demandé à quoi ressemblait ce virus qui nous a tous confinés.
Déjà, il faut le regarder au microscope électronique, hein, parce que c'est tout petit, même si c'est un virus un peu gros pour un virus. Ce qui est important, c'est que c'est un virus qui a une membrane lipidique. C'est important parce que ça permet dans la prévention, notamment, d'être actif quand on se savonne les mains, puisque à ce moment-là, on émulsifie la membrane et on détruit le virus. Et puis, il a pratiquement tous les virus, des protéines de surface qui lui permettent de s'accrocher sur des sites, des cellules qu'il va infecter. Et puis dedans, à l'intérieur de tout ça, on a l'information génétique, c'est un acide ribonucléique. C'est important aussi parce que ça veut dire que les virus ARN ont une capacité de mutation qui est extrême.
Ça veut dire que le virus qu'on voit actuellement, il pourrait en fait se modifier rapidement.
Il se modifie tout le temps. Simplement, si vous avez une forme qui va être plus performante que celle qui est en cours, elle va partir. Mais le virus se multiplie tout le temps. Vous avez des nombres de virions chez une personne malade qui est colossal. Et donc, vous avez un immense nombre de mutants à chaque fois.
Est-ce qu'elle vient de là, la difficulté à trouver des pare-feux, des médicaments ou des vaccins?
Le vaccin, il est en cours et bien en cours, mais il faut quand même le temps de le préparer. Il faut le temps de le préparer, il faut le temps de le tester, il faut le temps de le produire. Il sera prêt d'ici un an et demi, par là, mais il sera prêt. Maintenant, c'est vrai que ça poserait un problème. Cette variabilité des virus pose un problème. C'est le problème, par exemple, qu'on a avec la grippe, où on a la grippe saisonnière, je parle, hein, où chaque année, on est obligé de refaire des vaccins et il y a toujours une partie des virus qui échappe à la vaccination parce que ce sont des virus qui mutent sans arrêt. Alors pour les traitements médicamenteux, pour les virus, comme eux ne se reproduisent pas, ils utilisent la machinerie cellulaire pour se reproduire, c'est pas comme des bactéries ou des cellules. Et il est donc particulièrement difficile de les atteindre. On pensait avant qu'il fallait tuer les cellules pour tuer le virus, c'est-à-dire se tuer soi-même pour échapper. C'est plus vrai parce que maintenant on arrive à interférer avec le métabolisme induit par le virus, mais en fait c'est très compliqué, quoi. Beaucoup plus compliqué que pour une bactérie par exemple.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie émergente ou est-ce que c'est juste une nouvelle expression de virus plus ancien?
C'est souvent ça, les maladies émergentes. En général, c'est l'expression de virus qui existe depuis quelquefois des millions d'années, mais qui trouve une nouvelle possibilité de s'exprimer parce qu'il y a eu des changements environnementaux. Pour ce qui est du coup de ce virus-là, il est quand même probable qu'il s'agisse, en termes de vulgarisation, d'un mélange entre deux virus. Ce serait une nouvelle combinaison génétique, quoi. C'est ce qui semble le plus probable. Mais en général, les virus émergent parce qu'on change l'environnement.
Alors, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi est-ce que les modifications environnementales provoquent davantage d'épidémies?
Alors, dans la conférence qu'on a faite à la FRAPNA en septembre, c'est-à-dire avant l'émergence du Covid-19, et où on disait qu'il y avait le feu au lac, c'était l'expression que j'avais utilisée, parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait effectivement une nouvelle pandémie. Il y a vraiment que le gouvernement qui ne le savait pas, apparemment. J'avais pris un exemple que je trouvais assez illustratif, qui est celui du virus Nipah. Nipah, c'est une ville de Malaisie. Ils ont fait là-bas des cultures de palmiers à huile, c'est-à-dire qu'ils ont coupé la forêt. Donc vous avez une énorme modification environnementale. Les chauves-souris, vous voyez qu'on a encore dans les chauves-souris. Les chauves-souris frugivores qui vivaient dans la forêt n'avaient plus à manger, donc elles existent. Elles vont chercher à manger ailleurs. Elles vont chercher dans des plantations d'arbres fruitiers sous lesquelles les Malais élèvent des porcs en grand nombre, hein, parce que Sabo est un pays musulman, ils font un gros élevage de porcs qui est très important économiquement. Et donc voilà, on a quelque chose qui n'existait pas avant, c'est le contact entre cette population de chauves-souris porteuses d'un virus qui n'a jamais fait de mal à personne et qui est là depuis des centaines de milliers d'années, avec des porcs qui sont réceptifs, malchance. Le porc et l'homme sont très très proches biologiquement et le virus qui se développe chez le porc passe chez les éleveurs et il est exporté également. Et donc on a l'explosion d'une maladie très très grave, bien plus grave que le coronavirus actuel, qui est le virus Nipah. Vous voyez, quand on change comme ça, vous faites des modifications, et beaucoup quand on touche à la forêt ou au système aquatique. Vous faites un barrage, les grands barrages par exemple, vous avez émergence de maladies infectieuses parce que vous avez modifié la quantité de population de moustiques qui sont vecteurs. Et donc, quand vous modifiez la probabilité de passage d'un virus, à ce moment-là, vous pouvez déclencher des maladies émergentes. Et c'est pour ça qu'actuellement, vous avez un nombre qui est exponentiellement croissant de ces maladies émergentes. Je dis bien exponentiellement, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre actuellement, on va le vivre de façon répétée à l'avenir.
Du coup, vous dites que la mondialisation, c'est aussi un facteur aggravant ?
La mondialisation est un facteur énormément aggravant. Alors, ça dépend pour quel type de maladie. On a bien vu, par exemple, avec la grippe dite espagnole, qui n'avait pas besoin d'avoir d'énormes transports aériens et tout pour que ça diffuse d'une façon mondiale. Mais pour certains virus, ils ont besoin d'un support. Et les échanges de personnes et de biens actuels, de manière complètement démesurée par rapport à ce qui se faisait au passé, c'est évidemment le vecteur et la possibilité pour certaines maladies d'émerger.
Vous dites qu'on va vers des périodes épidémiques plus importantes à l'avenir. Et vous disiez aussi que jusqu'à maintenant, les politiques ne semblaient pas trop s'en inquiéter. Est-ce que vous pensez que cette pandémie mondiale actuelle avec le coronavirus, ça peut être un déclic ?
Je suis très sceptique sur la capacité des politiques à comprendre quoi que ce soit. Je suis peut-être un peu méchant, mais on a eu, par exemple, Ebola. Quand on a eu Ebola, tous les épidémiologistes ont dit « bon ben là, maintenant, après, ça ne peut plus être comme avant ». Eh ben, ça a été comme avant. On n'a pas fait comprendre aux politiques l'importance de ces maladies. Il y a un rapport du Sénat, par exemple, enfin de l'OPEX, hein, qui est un office, l'office parlementaire, sur les maladies infectieuses, qui date de 2004, et qui dit, ben oui, c'est majeur, il y a un problème majeur, il faut le prendre en compte, etc. Qu'est-ce qui a été fait avec ça? On l'a mis dans un placard. Et on a arrêté de se munir de stocks, par exemple de masques, de gants, de désinfectants, alors que ces stocks, on les avait. C'est absolument aberrant. Toutes les décisions, je dis bien les décisions politiques, il y a des politiques qui réfléchissent, mais les décisions politiques se font uniquement en fonction de l'intérêt économique immédiat.
Quelles pourraient être des réponses, on va dire, systémiques pour diminuer les facteurs aggravants d'épidémie, si elles sont liées justement à la mondialisation, à des pratiques agricoles industrielles, ça impliquerait des transformations sociétales importantes en fait.
On est obligé de prendre des changements de politique générale le plus rapidement possible. Alors la défense contre tous ces changements, c'est essentiellement le maintien de la biodiversité, c'est ce qui nous protège. Des maladies, c'est ce qui nous protège, parce qu'il y a des maladies humaines, il y a aussi les maladies animales, il y a des maladies végétales, hein, faut pas se centrer sur nous-mêmes, on dépend aussi de tout cela. Et la défense, c'est la biodiversité. Par exemple, l'agriculture basée sur des variétés qui sont uniformes, c'est-à-dire qu'elles sont génétiquement pratiquement toutes les mêmes, on fait du maïs CFA. C'est pratiquement toujours le même maïs. On plante des forêts, c'est des arbres qui viennent d'ailleurs et qui sont tous semblables. Il faut revoir cette politique, cette vision simpliste pour redonner un peu du souffle à la biodiversité que l'on n'a pas arrêté de massacrer ces dernières années. C'est absolument vital. Ça veut dire un changement très profond des politiques, mais on y est contraint. Alors là, on a une alerte, elle est forte, et au moins que ça serve à ça. Mais ça viendra pas des politiques, ça viendra de la population. Il faut que la population dise, moi maintenant ça suffit.
Le président de la Frapna Ardèche, Frédéric Jacquemart, alertait déjà sur les risques épidémiologiques en septembre dernier lors d'une conférence que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur le site de la Frapna, titrée « Comprendre les maladies émergentes ». Et pour finir, quelques infos. D'abord, le coup de gueule de Christian Martin, président du groupement départemental de la boulangerie et pâtisserie en Ardèche, qui s'inquiète que plusieurs personnes aient été réprimandées par la gendarmerie parce qu'elles étaient sorties s'acheter une baguette. À l'Argentière, par exemple, un homme aurait été sommé d'acheter 7 baguettes pour la semaine et de les congeler. Pour le représentant des boulangeries, ces remontrances sont une manière de renvoyer les gens vers la grande distribution, alors que les conditions sanitaires dans les boulangeries sont respectées et que depuis le début du confinement, de nombreux commerces ont déjà perdu près de la moitié de leur clientèle. Si vous habitez Vals-les-Bains ou Riens, vous avez peut-être senti une odeur de javel dans les rues. Normal, ces municipalités désinfectent désormais les chaussées et le mobilier urbain une fois par semaine avec davantage de produits, sans qu'il n'y ait d'impact sur l'environnement, nous dit-on. Et si vous êtes en manque de concerts et que vous voulez vous projeter sur votre programme estival, sachez que la SMAC 07 a mis en ligne une playlist avec une sélection de chansons de tous les artistes invités dans les prochains mois. C'est tout pour aujourd'hui. À 18h, une nouvelle édition de Solidaire d'abord, enregistrée en confinement. Et comme toujours, réflexion, point de vue décalé sur l'actualité et les crises que traverse notre société. C'est donc à 18h. La musique reprend dans un instant sur Fréquence 7. Moi je vous dis à demain. Salut !